Vous écoutez un podcast Top Music.
Premier sur la région.
Vous écoutez Les Grandes Girls, un podcast qui va à la rencontre de femmes inspirantes,
pionnières,
engagées,
visionnaires,
audacieuses,
créatives,
insoumises,
singulières,
transgressives,
courageuses,
intrépides,
rebelles,
militantes,
passionnées,
libres,
des héroïnes.
Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes.
Je suis Caroline Lévy.
Je suis Katia Martin.
Les Grandes Girls, saison 9.
C'est parti.
Alors que la féminisation des noms de métiers fait encore débat, il y a une profession pour laquelle il n'y en a pas, architecte. Un ou une architecte, finalement, quelle différence? Eh bien justement, beaucoup. Car la profession d'architecte se féminise. En près de 20 ans, la part des femmes est passée de 16 à 30%. Une amélioration, certes, mais entachée par des inégalités qui ont la dent dure. Qu'il s'agisse de revenus, de pénalités liées à la maternité, de sous-représentation à des postes à responsabilité, car oui, seuls 10% sont directrices d'agences d'architecture. À la lumière de ce chiffre hallucinant, nous avons voulu nous interroger sur la place des femmes dans l'architecture et les discriminations qui en sont liées. Pense-t-on l'espace différemment quand on est une femme architecte? Qu'implique exercer ce métier dans un environnement majoritairement masculin? Pour travailler sur cet épisode, nous nous sommes appuyés sur un magazine qui vient de sortir, L'architecture dans votre région. Des œuvres architecturales incroyables dans le Grand Est menées par des cabinets de notre région, mais pour la plupart dirigées par des hommes. Pour parler de ce sujet passionnant, trois architectes, trois femmes au parcours et à la vision différente. Alors, autour de la table et chez nous, les Grandes Girls, dans les studios de Top Music, nous accueillons Catherine Walter qui est...
Salut quand même.
Ah pardon.
Non mais je dis ça, je dis rien.
C'est vrai, t'as vu, souvent on se fait ça en fait. On lance le sujet, on oublie de saluer.
Non, moi ça m'est jamais arrivé.
Salut Caro quand même.
En plus, j'ai envie de te dire, tu m'as manqué.
Ah d'accord,
mais oui, c'est
depuis
ça,
24 en fait. Heures de...
Mais ça évidemment on le sait pas, mais dans nos vies on se voit régulièrement. Mais en tout cas à la radio et dans le podcast, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés.
Je suis ravie de te retrouver, je t'ai vu très concentrée pour cette introduction.
Mais c'est ça, en fait.
C'est vrai que c'est un sujet sérieux, mais on vous promet quand même, on va se marier, n'est-ce pas les filles?
Quand même, mais oui c'est vrai qu'il faut poser le sujet, parce que c'est pas évident, et dès qu'on parle de discrimination et de position et de place de la femme, forcément ça nous tient à cœur. Mais évidemment Katia, salut. Salut, du coup je sors les rames pour pouvoir, j'espère que tu m'en voudras pas trop, voilà. Alors, pour en parler, Catherine Walter, qui est architecte et conseillère au CAUE du 68, ancienne directrice du Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Alsace. Bonjour Catherine.
Bonjour les filles.
Julie Villel-Muller, qui est également architecte associée de l'agence MW et vice-présidente, rien que ça, de la Maison européenne de l'architecture et qui organise notamment les journées de l'architecture.
Bonjour.
Et puis Gwenaëlle Verrier, qui est architecte et qui a monté son agence qui s'appelle Positive Archi. Je pense que c'est tout un programme. Et évidemment, Positive Archi, je pense que je te passe la main. Parce qu'on parle de positive.
J'ai vu la liste, j'ai dit, je la prends elle.
Je la prends cash.
Je la prends cash. Et puis, c'est intéressant aussi de se demander, finalement, il n'y a pas de hasard si vous êtes là toutes les trois. Nous, on avait vraiment envie d'entendre des femmes qui ont trouvé leur place dans des univers différents, avec des postures très différentes. Et alors, moi j'ai choisi Gwen pour plusieurs raisons.
J'aime bien quand tu dis choisi.
Je l'ai choisi. J'ai fait mon casting. Non, je rigole. Donc, Positive Archi, on va en parler forcément. Il y a un mot. Et donc, c'est un cabinet que tu as monté il y a 10 ans. Il y a une dimension internationale, puisque tu as fait ton diplôme à Strasbourg, mais tu es parti directement finir ton diplôme à Johannesburg en Afrique du Sud.
Redis-le, Johannesburg. Je trouvais ça mieux. Hein?
Chacun son tour de...
Tu veux dire Josie.
Josie. Ouais, voilà, Jolie. Josie.
Josie.
Donc, une dimension internationale, et puis tu es effectivement extrêmement sensible à la qualité de l'environnement durable. C'est juste pour l'instant.
C'est tout à fait juste pour l'instant.
Il faut parler devant le micro, comme ça on t'entendra encore mieux.
Voilà, bien devant le
comme
micro
toi,
pour que tu sois dedans.
Comme si j'allais le manger.
Exactement, comme si j'allais le manger.
Et puis deux particularités, alors au-delà de ce parcours brillant, puisque tu as excellé en tout cas dans ton parcours d'études, tu as monté ton cabinet, et quand on s'est rencontrés pour préparer cette interview, moi ce que j'ai aimé, tu m'as dit, moi je joue pas aux hommes, je suis une femme, je suis une femme architecte et je le joue. Et quand je t'ai vu arriver avec tes talons et ta petite robe, je me suis dit, waouh, une vraie femme. Avant de, de...
Une vraie femme.
Une vraie
c'est,
femme.
Ça, forcément, je relève là.
Ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Putain, maintenant, je sors les rames. Tellement féminine. En fait, non, je suis en admiration parce que je disais, nous, on met plus des talons et des robes, etc. Probablement à tort. Mais du coup, en tout cas, tu vas sur des chantiers avec des talons et en robe, ce qui n'est quand même pas.
Non, mais c'est tout à fait personnel. C'est-à-dire que ma sœur dira, tu es victime de l'antiféminisme, alors que moi, je trouve qu'un oiseau qui fait un beau nid ou qui fait une belle chanson, c'est un oiseau qui a envie d'être beau, ben moi, c'est pareil, quoi. C'est, que je sois une femme ou un homme, je pense que j'aurais envie de me faire belle.
Alors, on a posé un chiffre en démarrant, en fait, cette émission, qui était de dire qu'il n'y a que 10% de femmes qui sont à la tête d'un cabinet d'architecture. Et je t'ai posé la question de quelles pouvaient être, en tout cas, les raisons. La première raison que tu as évoquée, c'est l'enseignement, déjà à l'école, avec des enseignements pour la majorité, des enseignants pour la majorité hommes qui enseignent comme des hommes.
Oui, et j'ai repensé à ce qu'on avait dit hier, et je pense vraiment que c'est une des différences fondamentales, en tout cas dans les études scientifiques. Après, je ne sais pas, je n'ai pas fait les autres, mais j'ai toujours observé qu'à partir du moment où on commence à devenir des adultes, hein, je ne parle pas du collège, quoi, mais à partir du moment où on commence à devenir des adultes en face d'adultes qui nous enseignent, j'ai l'impression que souvent le professeur masculin va faire entrer un système de compétition, c'est-à-dire comme si lui, il cherchait à obtenir les deux meilleurs étudiants, enfin voilà, il cherche à avoir en face quelqu'un qui va être dans l'excellence, alors que la différence pour moi dans les professeurs féminins, c'était plutôt que là, on cherche à faire monter tout le groupe, que chacun arrive à sa meilleure performance, il y a peut-être moins cette idée de compétition.
Et d'ego,
oui, peut-être, mais en tout cas, ou alors on le place autrement, mais ce qui est sûr, c'est qu'en architecture, il y avait encore beaucoup plus de professeurs hommes, et que je trouve qu'ils le faisaient ressentir, ce système, autant plus aux filles, quelque part, mais aussi plus aux garçons qui avaient l'air d'avoir plus de sensibilité, c'est-à-dire qu'un homme qui va avoir tendance à avoir son agence, son gros, son ego, etc., va pas forcément être... hyper sensitif à quelqu'un de sensible. Il y a quelques exceptions, il y en a des exceptionnels qui font revenir tout le monde vers le haut, mais sinon c'est ça, c'est la compétition.
Alors évidemment on va faire rebondir nos invités, mais juste pour aller au bout de ce que tu disais que tu t'es senti beaucoup, en tout cas alors jugée, mais devant un jury d'hommes ou tout ça, en train de te dire ah t'as de la chance, t'es mignonne.
Oui, alors ça c'est le truc qu'on entend en off, hein, souvent. Oui, mais de toute façon toi dans la vie t'as de la chance, t'es mignonne. Comme si être mignonne, ça vous empêchait de finir sur un trottoir, par exemple. Je veux dire, comme si être mignonne, c'était un plus dans une profession. Non, pas du tout. Et au contraire, et c'est pour ça que je m'habille comme je m'habille, parce que je revendique le fait que j'ai le droit aussi d'être comme je suis. Tout simplement, si moi j'aime m'habiller, je m'habille. Voilà, j'aime aussi un homme qui s'habille bien.
Et tu t'imposes pas de prendre cette posture plus masculine, ou même dans l'accoutrement, ou...
Non, justement, en fait, j'ai... Un moment, au début de ma carrière, j'étais en Afrique du Sud, donc au tout début. Et c'est quand même aussi hyper masculin là-bas. Et en plus, alors je suis étrangère, je suis jeune architecte. Parce qu'en plus d'être jeune, c'est pas toujours forcément vu comme quelque chose de respectable. C'est dommage. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est que j'ai vite compris que je pouvais pas être dans la position de m'en vouloir d'attirer des regards. Il fallait absolument que je décide qu'attirer des regards, c'était pas mon problème. Que si j'étais attirante, c'était pas un problème.
Ça, c'est en tout cas une belle vision. Je
regarde... On se retourne forcément.
Ouais, on se retourne parce que je me dirige notamment, mon regard se tourne vers Catherine parce que en préparant l'émission, forcément, on s'est intéressé à ton parcours. Et toi, tu as un parcours qui a évolué, hein, puisque tu as d'abord, enfin, tu as eu ton agence, et puis finalement tu t'es dirigée vers en plus l'administration aussi, puisque tu as dirigé pendant 7 ans le conseil régional de l'ordre des architectes d'Alsace, et aujourd'hui tu es au CAUE, et tu me disais que c'était intéressant parce que t'en as eu aussi marre, je crois, hein, c'est ce que j'ai compris, du rapport de force qu'il pouvait y avoir sur les chantiers et avec cet univers très masculin du bâtiment.
Effectivement, et suite à notre discussion, il y a autre chose aussi qui m'est revenue ce matin, en fait. Je me suis souvenue que en arrivant, en démarrant dans ce boulot de chef d'agence, entouré de plusieurs salariés, associés, etc., je me souviens que je ne sais plus qui avait fait cette remarque, mais elle m'est restée gravée. C'était « Ah, mais c'est bien, comme elle est mignonne, on va avoir plein de boulot. »
Oui.
Et j'étais... je sais que... Enfin, voilà. Ça remonte à hyper loin. Et en fait, cette remarque, elle m'est revenue ce matin. Je me suis dit mais mon Dieu. C'est... voilà.
Et pour revenir justement à ce rapport de force qui a fait aussi qu'à un moment donné, tu voulais plus...
oui, rentrer dans la bagarre.
Rentrer dans la bagarre. C'est ce que tu m'as dit. Hein. T'en avais marre de toujours
j'avais
devoir...
J'avais de lassitude, effectivement. J'avais... En fait, on oscille souvent. Enfin, voilà, peut-être pas tout le monde, mais moi, c'était un peu ça. J'avais le sentiment d'osciller entre, effectivement, cette espèce d'injonction à être un petit peu dans la séduction sur certains, à certains moments. Puis à d'autres moments où on va être plus dans le rapport de force et on va être obligé de taper du poing sur la table. Et j'avais l'impression que on pouvait difficilement être soi tout le temps. Voilà.
Bon, après, c'est dans le métier. Voilà. Là, tu parles de ton métier, mais c'est quand même une situation qu'on rencontre dans la majorité de nos métiers. Et je rebondis sur ce que tu disais, Gwen, quand tu disais... en fait, quand j'arrive sur les chantiers, il y a toujours un a priori, c'est-à-dire qu'on se dit « Ah, mais elle, et ça », et que finalement, elle a un feedback des clients qui disent « Ah, mais finalement, vous êtes vachement ouverte, ah bah finalement, c'est vachement bien de travailler avec vous », mais comme si il y avait un étonnement, parce que d'abord, il y a cet a priori, c'est comme si on devait pouvoir changer de casquette, mais on doit passer cet a priori-là. Julie, tu as ressenti ça aussi
hein? Ouais, ça me fait penser à un truc, c'est que souvent, quand je dis que je suis architecte, la première question que les gens me posent, c'est « Mais vous êtes architecte d'intérieur ou d'extérieur ?» Comme si on ne pouvait pas être une fille et faire des trucs un peu techniques, voilà, être là quand on coule du béton ou avoir un intérêt pour la charpente. Enfin, parce que le
bâtiment, l'image de ce métier, genre.
Alors
peu...
que les filles, bon, bah voilà, elles sont plus là pour choisir les couleurs, les tissus. Enfin, c'est une projection de déco.
Bien sûr.
Tandis que ben, nous, on est évidemment, on est architecte de tout, de l'intérieur, de l'extérieur, parce qu'on aime bien avoir une vision un peu globale de nos bâtiments. C'est quand même ça la spécificité de l'architecte, c'est d'avoir. D'être là pour coordonner tout un tas de corps de métier et puis aussi de coordonner toutes les études techniques, c'est-à-dire que c'est quand même pas un métier qu'on fait complètement seul, hein. On travaille avec des ingénieurs, on travaille avec des acousticiens, enfin, et nous on est là pour faire la synthèse, et voilà, c'est un truc que peuvent faire les hommes et les femmes, enfin c'est pas spécialement lié au sexe, mais c'est vrai qu'il y a des projections comme ça
Voilà, toi, tu le ressens régulièrement, là, tu donnes cet exemple-là, mais tu le ressens vraiment
souvent. Ça, c'est vraiment, quand je parle de mon métier, c'est vraiment cette question,
c'est
elle revient, mais
systématique.
Presque systématiquement.
Et ce qui est intéressant, c'est que dans ton cas de figure, contrairement à Catherine et Gwenelle, c'est que toi, tu es associée à ton mari.
Ouais.
Donc, vous avez votre agence tous les deux.
Ouais.
Et puis, avec une majorité de femmes architectes qui collaborent.
Ouais, voilà. C'est le seul homme
de l'agence. Mais par contre, tu sens aussi parfois une discrimination quand tu arrives sur un chantier et qu'on s'attendait à voir plutôt ton mari.
Associé, hein.
Ton associé.
Ouais, mais c'est ce que je te disais. J'ai déjà eu des entrepreneurs qui sont allés voir mon associé, donc qui est aussi mon mari, mais ça c'est parce que en fait une association c'est un peu comme un mariage, alors tant qu'à faire autant le faire avec quelqu'un qu'on aime, hein. mais oui, cet entrepreneur il est allé voir mon mari, mon associé, en disant mais pourquoi vous envoyez votre femme sur le chantier, alors il était estomaqué parce que bon bah lui évidemment il sait pourquoi, hein.
Et donc, surtout il t'envoie pas.
Et surtout, il t'envoie pas,
pas, quoi. Et puis surtout, il lui a dit, mais en fait.
C'est vrai que cette phrase, elle est terrible. Pourquoi t'envoie ta femme?
C'est elle le chef, en fait, de l'agence. Et puis surtout, elle est architecte, c'est son métier. Donc, c'est pas qu'elle me remplace sur le chantier, c'est que c'est son chantier, quoi. Donc, j'étais là, bon, ok, un peu étonné. Mais bon, après, c'est aussi, voilà, de temps en temps, on a des vieux entrepreneurs qui n'ont pas encore pris le pli de voir des femmes sur les chantiers, mais quand même. Je dois quand même aussi reconnaître que de plus en plus, il y a des femmes sur les chantiers, des femmes architectes, des femmes maîtres d'ouvrage.
Et quel est le feedback qu'on te fait après qu'on a passé cette barrière-là ou quand tu gères des dossiers?
En général, les chantiers, ils se passent plutôt bien. Moi, j'ai pas de... Enfin, j'ai pas de problème particulier sur le chantier. Au début, il faut un peu se faire en sorte que les entrepreneurs qui sont là adhèrent au projet qu'ils vont construire. Et puis,
et puis être en confiance, parce que vous avez quand même un gros challenge de générer de la confiance en fait, dans votre métier.
Ouais. Mais le fait d'être une femme, c'est pas forcément un inconvénient. Tu vois, moi, je suis mère de famille, j'ai trois fils, donc la gestion de crise, c'est un peu mon quotidien. Et quand je suis sur un chantier, j'ai l'impression en fait que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que sur un chantier, il va y avoir des conflits entre certains entrepreneurs. Le plâtrier qui a mal fait le truc, alors le peintre, il va râler parce que le support est pas bien. Et donc toi, t'es là aussi pour un moment. Aplanir et faire en sorte
apaiser
les gens se calment et décident d'aller de l'avant. Et ça, franchement, c'est des compétences que, en tant que mère de famille, je développe quotidiennement. Donc, c'est pas très différent. Et c'est juste que quand t'es sur un chantier et que t'es une femme, tu peux choisir de faire l'homme, mais c'est pas forcément la meilleure attitude. Je pense que la meilleure
attitude... Ça veut dire quoi déjà faire l'homme sur un chantier?
C'est marrant parce que
autour de la table, en fait, quand on dit faire l'homme, il y a cette posture en fait, comme on bombe le torse et on met nos épaules en arrière. Et c'est assez marrant parce que moi, ma question, c'est quoi faire l'homme sur un chantier?
Alors, je pense que je l'ai vu de certaines femmes. Et je dirais, c'est tout simplement, dans ces cas-là, vraiment nier le fait que tu es une femme. Par exemple, en t'habillant hyper bonhomme, hein, tout simplement, et en ayant une attitude un peu bourrue. Et donc, c'est pas du tout le genre de Julie, par exemple, ça va pas non plus être celui de Catherine ni de moi. Et la question de la confiance, c'est plutôt une question de confiance en soi. En fait, on est en train de parler de comment sont les hommes par rapport à nous, hein, sur les chantiers. Mais c'est comment nous sommes aussi.
Là, tu c'est-à-dire disais, en fait, ton attitude, celle que tu vas avoir...
Voilà, c'est celle que moi, je vais projeter. Donc, cette question de confiance sur le chantier, au premier rapport, quand on a une équipe en général, en tant qu'architecte, on se retrouve avec 8 intervenants à chaque réunion, plus le client, etc., quand il faut le convaincre. Cette question de confiance... C'est nous qui la projetons. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vient en étant soi, en n'ayant aucun problème, tu me regardes parce que tu me trouves comme ci, comme ça, c'est pas grave, c'est pas mon problème, et qu'on parle de notre boulot, dès qu'on commence à atteindre les questions techniques, je veux dire, toutes les critiques, tout ça, on rentre dans le métier. Eux aussi, ils sont là pour bosser. Et donc, ils oublient presque qu'ils sont en train de parler à une femme. Enfin, moi, j'ai souvent cette impression, c'est que, oui, quand t'arrives dans la salle de réunion...
Tu vois le regard.
Tu vois le regard. Mais c'est tout, c'est quand même... Enfin, ça va, quoi. Alors qu'une fois qu'on bosse, comme disait Julie, je pense qu'on a peut-être aussi ce sens... Moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai déjà ressenti ce truc, presque une autorité qui peut être naturelle, tout aussi naturelle, et qui n'est pas forcément moins bien prise, à part... Après, il y a toujours de la vieille garde qui n'aime pas que quelqu'un lui donne des ordres s'il est jeune et si c'est une femme. Mais je ne pense pas que ce soit la majorité aujourd'hui.
J'allais dire, on en a parlé pour ajouter à la question de Caroline. Tu disais qu'en fait, la différence qu'il pouvait y avoir, en tous les cas dans la posture, c'est la forme d'autorité. La manière en fait, de donner les ordres ou de poser les choses entre...
C'est ce que moi, une femme, m'a dit.
Et c'est le feedback, parce que là, on n'est pas en train de dire on pense que nous, machin,
non,
etc.
C'est ce qu'on m'a dit.
Mais j'ai vraiment questionné Gwen sur le feedback, en fait, ce que les clients pouvaient dire. Et effectivement, il y avait une différence sur cette forme, cette manière de.
Ils me trouvaient plus abordable.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision?
Je voulais juste revenir sur ce que tu disais au début. Je suis pas vraiment sûre que ce soit notre attitude à nous. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt un manque de confiance au départ. Et du coup, il faut. Prouver qu'il faut venir avec des arguments. Je me souviens d'avoir vu un jour un reportage où Odile Deck, qui est une grande architecte, connue internationalement, etc.
Un documentaire d'ailleurs, qui est femme architecte.
En fait, c'est dans ce documentaire-là, je crois, où elle explique que quand son associé et époux est décédé dans les années 90, elle s'est posé la question de comment continuer. Et son entourage proche, des amis en qui elle avait confiance, lui ont dit arrête. Ou associe-toi à quelqu'un. Alors qu'elle avait jusque-là le sentiment aussi d'avoir porté quand même une grosse partie. Elle était assez consciente de ça, sûre d'elle, de ce point de vue-là. Mais bon, avec effectivement un nouveau manque. Et en fait, c'est les gens autour de vous, ils sont pas forcément négatifs, mais ils ont peur pour vous. Ils ont un manque de confiance, quoi. Il faut.
Moi, je me demande quand même si tu vois le problème de la confiance, il est C'est vrai pour les femmes, mais c'est vrai aussi pour les jeunes. Je pense qu'au début de notre activité professionnelle, Frédéric, mon mari,
associé,
mon partenaire, il a eu aussi des difficultés à trouver la confiance des entrepreneurs, parce que bah, quand on démarre dans ce métier, techniquement, on ne sait pas encore tout. Enfin, c'est vraiment un métier où tu te bonifies avec de la bouteille.
Avec
quoi. Il faut de l'expérience. Et ce manque d'expérience, ben, quand on est jeune architecte, on l'a tous. Et ben, parfois, moi, je pense qu'on m'a fait... on me l'a moins reproché, justement, parce que j'étais une fille. Et du coup, c'était un peu un bénéfice, parce que c'était normal que je ne sois pas hyper calée en plomberie. Ou que j'ai, dans la tête des entrepreneurs que j'avais en face de moi, ils étaient plutôt bienveillants à vouloir m'expliquer. Et Frédéric, il n'avait pas forcément droit à cette même bienveillance au démarrage, quoi. Donc effectivement, c'est des projections, hein. c'est pas forcément juste. J'ai entendu d'autres consoeurs dire « oui, ben, moi aussi, j'ai divorcé de mon mari, de mon associé, puis ben, au début, j'ai perdu tous mes clients parce que voilà, ils pensaient que moi, j'étais là pour faire joli et l'intendance et la comptabilité, alors qu'en réalité, ben, c'était moi qui faisais les projets. » Bon, voilà, c'est aussi trouver... trouver sa place et réussir à effectivement à gagner la confiance des gens avec qui on travaille, quoi.
Alors on voit qu'il y a de plus en plus quand même de femmes qui font des études. Je crois que tu connais les chiffres.
Exactement. J'allais y aller et tu y allais avant moi. Effectivement, ce qui est intéressant surtout dans la profession d'architecte et quand on réfléchit au sexe dans la profession. Cette phrase est drôle. Quand on réfléchit au sexe dans la profession.
Tout le monde y réfléchit tout le temps.
Tout le monde y pense tout le temps. C'est qu'il y a une vraie féminisation chez les étudiants, puisque 65% des élèves étudiants à l'école d'architecture, notamment de Strasbourg, sont des étudiantes. Et puis seulement, on va dire 10%, puisque c'est un constat global, finalement finiront à diriger leur propre agence.
Alors, ou pas, on n'a pas le recul sur toutes ces générations qui arrivent là. On va être positif, que c'est en train de changer peut-être.
Effectivement, et d'ailleurs je vous invite à aller consulter des études qui sortent d'ailleurs tous les deux ans et qui sont menées par le Conseil National de l'Ordre des Architectes de France, et ça s'appelle l'Archigraphie, et c'est une étude très 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 complète, une enquête faite sur des milliers d'architectes en France, et qui montre justement l'évolution démographique, économique du métier d'architecte, évidemment avec le sujet crucial de la féminisation et toutes ces disparités qui sont encore en place. Donc comment vous expliquer, mesdames, puisque vous participez quand même à cette évolution, hein, même si vous n'êtes pas toutes de la même génération, mais à des postes différents, mais toutes les trois architectes, comment vous visualisez cette évolution qui se féminise certes dans l'éducation, mais où on n'arrive pas quand même à des postes de responsabilité encore aujourd'hui, quoi. Comment vous expliquez, Catherine ?
Alors, ben, en fait, moi, je peux parler éventuellement de mon parcours, et peut-être que c'est effectivement représentatif au moins d'une partie. Moi, j'avais d'abord mon agence, et puis à un moment donné, il se trouve que j'avais une associée, et il se trouve que voilà, elle souhaitait arrêter. Et donc, je me suis posé la question de comment je continuais. Et comme je le disais tout à l'heure, moi, la bagarre, à un moment donné, ça me minait vraiment. C'était compliqué pour moi à gérer dans ma vie perso, de rentrer à la maison le soir et de me dire ah, j'ai encore dû batailler pour ci, batailler pour ça. Et donc, je me suis dit que c'était pas mon caractère. Et que il valait mieux que je sois sur quelque chose de plus administratif, comme tu le disais, Caroline, au début. Et donc voilà, donc j'ai regardé les opportunités et c'est l'ordre, voilà, j'ai postulé à l'ordre des architectes qui ouvrait un poste de direction.
Donc j'ai toujours dans ma passion. Donc là, c'est très personnel quand même, toi,
ouais,
du coup.
Mais c'est quand même, je pense, j'ai effectivement pas les chiffres là-dessus, mais je pense qu'il y a quand même une grande partie des femmes qui se dirigent vers des
Bien
métiers
sûr.
Comme ça. Maintenant, actuellement, je travaille pour un conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Il y en a dans tous les départements. Et voilà, comme dit, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on est quand même une grosse, grosse majorité de femmes dans ces organismes qui sont départementaux.
Du coup, ça me fait réagir sur une... Parce qu'on a annoncé sur nos réseaux sociaux qu'on allait aborder ce sujet. Et on a eu un commentaire et un témoignage intéressant qui disait, d'ailleurs, dans les commandes publiques et dans quand on travaille avec des élus, souvent, alors pas dans les départements parce qu'on sait que c'est paritaire, mais souvent les élus sont des hommes et que du coup c'est aussi compliqué de travailler sur des commandes publiques
quand on est une femme.
Est-ce que vous êtes d'accord? pour les commandes publiques. Hein, je...
Alors, moi, je travaille sur de la commande publique. C'est la plus grosse partie de l'activité de mon agence. Je ne l'ai pas...
Par senti,
mais parce que c'est des concours, en fait. Donc, on est retenu sur nos références, on fait un concours.
Mais une fois le projet choisi et lancé... Projet.
J'ai eu beaucoup à faire après à des chefs de service qui souvent sont aussi des femmes.
Oui, dans l'administration.
Dans l'administration. Donc non, j'ai pas. Enfin, je peux pas dire que dans mon expérience personnelle, ça me soit arrivé d'avoir ce genre de relation avec les maîtres d'ouvrage. En général, quand ils prennent votre projet, c'est qu'ils vous choisissent aussi, ils choisissent votre projet. Donc,
dire que c'est par rapport à l'équilibre de vie, puisque là, finalement, dans tous ces domaines, on n'arrive pas à donner d'explications précises pour pourquoi il n'y a que 10%.
Ce que disait Gwen au début sur l'éducation, c'est vrai, mais c'est vrai depuis le début, en fait, souvent, on n'éduque pas les filles à aller chercher ça.
Puis à en rêver, à le projeter déjà.
Voilà.
Puis il faut peut-être laisser un peu de temps aussi.
De lire Virginie Despentes et voilà, on a une explication sur ce qu'on demande à nos filles, quoi. Et je pense qu'en réalité, il faut qu'on dise aux étudiantes que ce métier, il est tout à fait ouvert aux femmes, c'est possible.
Est-ce que c'est le cas aujourd'hui à l'école, puisqu'on sait qu'elle
est son propre chef? C'est juste que c'est parfois un choix. Moi, par exemple, j'ai voulu aussi avoir une grande famille, donc c'est pas forcément facile d'avoir une grande famille et puis d'avoir sa propre agence. Ben, comme Catherine, je suis pas une solitaire. En fait, j'aime pas forcément être seule dans mon projet, seule sur mon chantier. J'ai besoin de partager mon expérience et mes problèmes de chantier avec les gens de mon agence. Donc, c'est pour ça que je suis heureuse d'être dans une agence où on est 5 et où on peut se répartir aussi la charge mentale et tout ne repose pas que sur moi.
Il y a un vrai sujet, on parlait d'équilibre de vie, mais est-ce que vous ne pensez pas, en tout cas c'est une piste, que le fait de fonder une famille et la question de la maternité pose question, en tout cas au moment où on veut monter sa propre agence? Est-ce que c'est pas vraiment un frein
Je pense que ça l'est encore culturellement, mais après moi je peux pas dire par exemple que pour moi c'est un frein. Dans ma famille, toutes les femmes étaient chefs d'entreprise, donc j'ai été plutôt élevée avec des modèles... proche, en partant même de ma grand-mère qui était seule aux commandes d'une entreprise aussi. Donc ça c'était pas un frein. Et en plus, elles ont eu toutes plein d'enfants. En termes de projection, ça l'a pas été. Mais je pense par contre, oui, peut-être dans notre société, c'est encore culturellement un peu ancré, oui.
En tout cas, dans cette étude donc Archigraphie, hein, si vous êtes intéressé par le sujet, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de données très précises. Ils ont donc posé la question et enquêté auprès des architectes. Et sur cette question autour de la maternité et du fait d'être pénalisé, hein, d'avoir des enfants, pensez-vous avoir été pénalisé sur le plan professionnel par le fait d'avoir eu un ou plusieurs enfants? Eh bien, sachez que 8% des hommes auraient répondu oui et 43% des femmes ont répondu oui. Ça montre quand même une inégalité assez incroyable.
Et un vécu très différent.
Oui, et quelque chose d'intégré finalement. Elle l'intègre.
Ça va de soi. Voilà. C'est inhérent au métier en fait. Donc c'est peut-être ça, peut-être on met des suppositions, en tout cas on n'a pas de réponse, hein, mais ça peut expliquer en tout cas peut-être ces disparités-là. Et pourtant Catherine, quand tu as commencé et que tu t'es lancée dans les études, tu n'as pas commencé par des études d'archi, tu es d'abord allée à l'UT Génie Civil d'Ilkirch, c'est ça?
Oui, de Ilkirch.
Et vous étiez très peu de femmes. Et tu étais seule dans ta promo?
Alors, pas seule dans ma promo.
Non, on était dans ta classe.
Mais dans ma classe, j'étais toute seule avec 25 gaillards. Et
tu devais être chouchoutée.
Ben oui. En fait, c'est ça. C'est là qu'elle veut me faire
venir.
C'est vers là que je veux aller. Parce que tu me disais, ça n'a pas toujours été négatif, en fait.
Oui, voilà. Ouais, en fait, c'est pas forcément négatif, mais j'étais effectivement chouchoutée. Si j'arrivais en retard, ben, c'était pas grave. Si j'avais un petit souci, ben, on me le pardonnait tout de suite. Voilà. Et ben forcément, moi, j'en ai profité aussi. Hein.
Mais ça, normal. C'était à l'UT. Mais oui. Une fois sur les chantiers?
Non, mais là, je pense que c'est un peu comme disait Julie, c'est peut-être le... comme toutes les femmes et comme tous les jeunes, voilà, c'est le plus un manque de confiance en vous, quoi.
Alors, on continue sur des événements phares, hein, parce que on sait que l'architecture est un sujet qui alors passionne les gens, parce que finalement, on vit tous dans une maison, bah, on aime nos intérieurs, on aime l'habitat extérieur, les structures publiques, enfin voilà, on vit dans l'espace. Est-ce que vous pensez, mesdames, qu'il y a une façon de penser l'espace quand on est une femme ou pas ?
Non.
Moi non.
Ah ouais, Gwen, m'a dit, il n'y a pas de différence. Parce que moi, j'ai commencé peut-être sur la maison. Ah ben non, mais ça, c'est anti-féministe.
Non, j'ai dit, c'est du sexisme ordinaire.
C'est du sexisme ordinaire.
Oui, c'est.
On ne parle pas d'espace public, hein, à destination des femmes ou des hommes, ou penser l'espace public de façon dégenrée ou genrée, peu importe. En tout cas, est-ce que vous pensez qu'on a cette. La vision. Une vision différente quand on réfléchit à une œuvre architecturale, quand on est architecte?
Je ne suis pas certaine. Après, il y a des sujets en ce moment qui sont très à la mode, par exemple sur les cours d'école, où on essaye de faire des cours d'école qui sont, on va dire, entre guillemets, moins
inclusives.
Plus inclusives. Mais là, c'est plus que. Voilà, on se dit, ben, on ne va pas occuper toute la cour d'école avec un terrain de foot et on se retrouve avec seulement 10 gamins qui jouent et puis.
Et ça, c'est le projet.
Et puis, t'en as 100 sous le préau, tout coincé parce qu'il n'y a pas de place. Donc, on essaye de faire des aménagements qui sont plus.
Voilà, équilibrés.
Qui s'adressent plus à un large panel d'enfants. Mais c'est pas que la question du genre, même si.
Mais ça, je dirais, c'est sur le projet, c'est sur le résultat. Mais est-ce que.
Toi, tu parles de la conception.
La conception, la conception des espaces.
On a des cerveaux qui ne sont pas forcément genrés. C'est-à-dire que je ne suis pas persuadée que je pense plus comme une femme que comme un homme à l'intérieur de mon cerveau. Quand je conçois de l'espace, je le conçois à la rigueur en tant qu'être humain, parce qu'on est des bipèdes, et c'est ça qui est important. C'est ce qu'on nous apprend d'ailleurs, concevoir tout l'espace en fonction aussi du
corps.
C'est
ce qu'on vous apprend à l'école d'architecture.
En fonction du corps humain, on fait du dessin de nu, etc. Je veux dire, c'est en fonction de la dimension du corps, c'est pas en fonction du genre en soi, et je suis persuadée que j'ai connu des hommes qui ont une façon de percevoir l'espace qui pourrait être conçue comme plus féminin par beaucoup, alors que le fait que moi je vois très très bien dans l'espace depuis toute petite, ça va être conçu comme masculin par beaucoup de gens. Et donc je pense que notre métier, il nous offre cette chance aussi, non seulement dans le genre, hein, on peut être une ou un architecte, mais aussi dans la façon dont on travaille. Pour moi, ça a toujours été une grande liberté, c'est très créatif, hein. Il y a des règles très contraignantes, mais c'est pas genré pour moi ça, ni les règles, ni la liberté.
Par contre, je pense qu'on a tous, chacun, notre créativité et notre façon de concevoir les bâtiments qui est très très personnelle et tu vois, très lié à qui on est, à ce qu'on a vu, à ce qu'on a vécu. Et cet aspect-là fait que c'est bien aussi que dans les écoles d'architecture, il y a des profils diversifiés qui puissent rentrer dans les écoles parce que ensuite, la constitution de la ville, elle est faite par des gens qui sont d'un large horizon et ça fait des villes quand même plus riches que quand... Tous les étudiants sont sur le même modèle au moment de la rentrée.
Mais pour aller plus loin, plutôt que se poser la question de la différence ou de la conception, qu'est-ce qui se passerait, d'après vous, s'il n'y avait que 10% d'hommes à la tête de cabinet d'architecture et 90% de femmes, au-delà de l'espace, par rapport au métier, par rapport à... je ne sais pas. À votre avis, qu'est-ce qui serait différent ?
Oula,
c'est vraiment la perspective.
Question piège.
Et ben on gagnerait moins bien notre vie parce que ça voudrait dire que notre métier se sera complètement paupérisé. Je sais pas.
Et si ?
Je pense qu'on aurait le même phénomène qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que tant qu'il y a une sorte de domination dans les faits d'un genre sur l'autre, il peut y avoir pour l'autre genre, celui qui est dominé, ce sentiment de devoir se justifier. Voilà. Donc là, ce seraient les hommes, peut-être, s'ils étaient que 10%, qui auraient cette bataille encore à faire. Mais je pense qu'il y a vraiment une évolution dans le temps. C'est-à-dire qu'on est en train de se poser la question, pourquoi il n'y a que 10% de femmes ?
C'est ça.
Alors qu'en fait, c'est récent qu'il y ait 65% d'étudiantes. Donc il faut leur laisser le temps d'arriver. Et ensuite, la confiance de se dire, aujourd'hui, le métier évolue beaucoup vers plus d'associations. Les gens s'associent plutôt que d'être seuls.
En tout cas, pour conclure, ce qu'on pourrait dire, c'est que l'idéal, de toute façon, comme dans tout, c'est l'équilibre. C'est d'avoir un équilibre pour que, justement, il y ait un panel, en tout cas, que ça soit de personnalités, d'hommes, de femmes, etc. Et le plus important, c'est l'équilibre, mais aussi de changer un peu l'image qu'on peut avoir. Hein. Tu parlais des anecdotes avant de préparer cette émission. Moi, j'ai croisé plusieurs personnes qui travaillent dans le bâtiment. Quand je leur ai donné ce chiffre-là, ils m'ont dit, bah oui, c'est normal. Enfin, l'architecte, c'est un métier d'homme. Ah bon, et pourquoi c'est un métier d'homme? Ben, c'est pareil que les chefs en cuisine. Donne-moi un chef en cuisine à Strasbourg, femme. Ah d'accord, ok, on en est là. Donc c'est aussi une question d'image, et c'est pas des personnes...
Non, mais de montrer aussi des grandes figures de l'architecture.
Exactement, et tu me fais une transition fabuleuse. Je l'attendais, cette transition, et je me disais, mais quand est-ce que j'y vais? C'est toujours une question de représentativité, de visibilité des grandes figures, évidemment. Alors, il y a notamment, on pense à deux architectes et designers, notamment Hélène Gray et Charlotte Perriand, qui ont rendu au grand public et démocratisé vraiment les métiers d'architecture architecte femme. Mais quand on pense au prix Pritzker, puisqu'on sait que c'est quand même le prix Nobel, on va dire, hein, qui est décerné aux architectes, eh bien, depuis 1979, seulement 5 femmes ont reçu, on pense notamment à Zaha Hadid en 2004, et récemment, cette année, en 2021, eh bien, c'est une femme française qui a reçu le prix avec son associé d'ailleurs, et c'est Anne Lacaton. Et je me tourne vers Isabelle, parce qu'Isabelle, qui est donc, on l'a dit en introduction,
Isabelle,
Katia sort de ce corps. Alors, ça ne m'est jamais arrivé en 10 ans. Et là, en plus, j'étais sûre de moi. Isabelle, je ne sais pas pourquoi.
Je dois avoir une tête.
Donc, Julie, pardon.
On t'a appelé par 3 prénoms aujourd'hui, ça a commencé.
C'est ma fête.
Donc Julie, bien sûr, qui est vice-présidente donc de la Maison européenne d'architecture et qui organise chaque année les journées d'architecture. Et cette année, donc en 2021, vous organisez, vous refaites ce festival qui démocratise véritablement l'architecture sur tout le territoire, hein, jusqu'au Bade-Wurtemberg et jusqu'à Bâle.
Prix national.
Exactement. Voilà. Et vous invitez Anne Lacaton.
On aura la joie et le privilège d'avoir Anne Lacaton pour notre temps fort de clôture pour une conférence au Zénith qui aura lieu le 28 octobre. Et donc, c'est une grande joie d'avoir une grande femme architecte qui, en plus, travaille sur des thématiques passionnantes, sur le réemploi, pas vraiment le réemploi, mais plutôt la rénovation énergétique et des thématiques de développement durable depuis très longtemps et qui... Voilà, vraiment à une œuvre remarquable. Et dans l'ensemble, la Maison européenne de l'architecture essaye toujours dans sa programmation de mettre aussi à l'honneur de grandes femmes architectes, puisqu'elles sont quand même de plus en plus nombreuses.
Et de plus en plus visibles.
De plus en plus visibles. Et c'est bien qu'il y ait aussi des grandes figures de l'architecture femmes qui soient mises en lumière.
Alors Julie, on peut donner des dates quand même, hein, puisque tu parlais du 28 octobre avec Anne Lacaton, donc prix Pritzker 2021. Mais on peut parler globalement du festival du 24.
Voilà,
septembre.
Du 24 septembre
au
31 octobre.
C'est ça, on sait dans pas si longtemps.
Donc c'est un mois au mois d'octobre, comme chaque année. Ça fait 20 ans que les journées, un peu plus de 20 ans que les journées de l'architecture existent. Et il y a tout un tas d'événements donc sur ce territoire trinational. Un grand nombre de ces événements ont lieu en Alsace, bien sûr. Et on aura aussi une conférence d'ouverture avec Bernard Kirou à Schittigheim. Une conférence au milieu des JA le 7 octobre à l'Oberrheinhalle d'Offenburg. Et puis aussi un autre temps fort sur la frugalité heureuse à Mulhouse.
Frugalité heureuse.
Voilà.
Tout un poème.
Avec Philippe Madec qui fera une conférence également. Et j'ai oublié la date.
Eh ben, le mieux, c'est quand même d'aller voir,
d'aller voir sur le site internet
des journées de l'architecture.
Pour finir, finalement, si on devait, parce que l'idée est aussi d'inspirer hein, des femmes qui vont peut-être nous entendre, si vous aviez chacune peut-être un mot, une phrase pour donner envie, en fait, quand vous définissez votre métier, ou si vous aviez un mot pour dire pourquoi votre métier est extraordinaire, vous diriez quoi? Oh, le challenge que je lance à Catherine, j'appelle Morgane, elle fait « Oh, la question !»
Ah ouais, non, mais on n'a pas envie de dire une bêtise quand même, il faut un petit peu réfléchir.
Gwen, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Qu'est-ce qui fait que ton métier est magique et que tu l'aimes?
Paradoxalement, je dirais liberté. La liberté, parce que en tant que femme, bon, bien sûr, maintenant en tant que chef d'entreprise, mais j'ai été employée avant dans de grandes agences. J'ai trouvé que j'avais la liberté d'exiger le salaire que je voulais. Si mon patron voulait pas me donner ce salaire ou qu'il y avait négociation, je pouvais aller ailleurs. Une certaine liberté et la liberté pour moi en tant que je suis la seule ici qui est patronne seule, on va dire, de sa petite agence, qui est quand même le format principal des architectes encore aujourd'hui. Mais j'ai la liberté de choisir si je bosse tard, si je me lève tard, si je... Bien sûr, il faut être là pour les rendez-vous, mais j'ai aussi cette liberté-là de choisir mon mode de vie.
Ouais.
Ouais, Julie, moi, c'est vraiment... je pense que ce qu'il y a de génial dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas de routine. C'est tout le temps différent. Il se passe jamais deux fois la même chose. On pense qu'on a déjà tout vu et en fait non, c'est toujours différent. C'est d'autres clients, c'est d'autres sujets, c'est d'autres contextes, c'est d'autres entreprises à chaque fois. Donc c'est aussi vraiment une histoire humaine. C'est-à-dire que c'est un métier où on est au sein d'un groupe et c'est aussi un métier où on imagine quelque chose et à la fin c'est construit. Et
c'est ce que j'allais dire, moi, de l'extérieur, c'est qu'en fait il y a quelque chose qui reste en fait. Mmh. On veut tous en fait que laisser une trace ou donc c'est quelque chose qui existe en fait.
Puis en plus c'est quand tu construis un bâtiment, c'est pour des gens qui vont l'utiliser.
Pour des usages,
c'est des espaces de vie
très différents.
Donc c'est génial aussi de rencontrer les usagers, de voir quels sont leurs besoins. Enfin, voilà, c'est cette diversité du métier, le fait qu'il n'y ait pas de routine, c'est vraiment ça, moi, qui me motive.
Ça donne envie. Catherine, tu as le mot de la fin. Cette pression.
Ben, en fait, je rebondis sur ce que dit Julie, parce qu'effectivement, moi, c'est ça qui me plaît le plus dans ce métier, c'est la diversité des tâches, la diversité des clients, la diversité des projets. On n'est jamais dans le routinier, on n'est jamais dans le train-train, on est tout le temps remis en question. Soi-même, on peut se challenger ou pas. On peut, on le fait comme on a envie. Et même maintenant que je suis architecte conseil, moi, je fais essentiellement de la sensibilisation. Et donc, je vais avoir notamment des enfants, enfin, des publics divers. Et à chaque fois, pareil, il faut que je me challenge. Ils ont un besoin, il faut que je réinvente quelque chose. Et donc, il y a toujours cet esprit de créativité, de remise en question, d'inventer des choses et de rencontrer des gens différents.
Voilà. Super, merci. Merci à nos invités, c'est passionnant. On a envie de refaire en architecture, tiens.
T'as envie de faire quoi?
Architecte.
Toi? Ouais. Ah oui
jamais trop tard. Non, mais ça donne envie. Bien moi, je sûr. Trouve que c'est un fabuleux métier.
C'est un fabuleux métier, c'est sûr. Et on est quand même contente que la profession évolue dans ce sens. Et même s'il reste encore des inégalités et des disparités, on se rend compte quand même que la société évolue, et heureusement. Et vous en êtes la preuve, mesdames. C'est bien. Voilà.
On arrive à la fin de cette émission. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Et vous pouvez retrouver notre page dans le magazine...
L'architecture de votre région. Voilà, ouais, qui est sorti. Oui, mais tu finis là-dessus. Oui, parce qu'on avait annoncé effectivement cette thématique qui était annoncée d'ailleurs à tous les architectes de la région. Donc, en espérant bien sûr que vous serez nombreuses et nombreux à nous écouter.
À bientôt.
Merci les grandes gars.